Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand et ses cas extraordinaires. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le cas d'aujourd'hui, pour reprendre le terme, pose de nombreuses questions à différents niveaux. Il y a 30 ans, mourait à Châteauneuf-de-Galaure, près de Valence, la mystique Marthe Robin, célèbre dans le monde entier pour être restée des décennies entières sans manger, sans boire, et pour avoir le vendredi revécu incessamment la passion du Christ dont elle recevait les stigmates. Ces jours-ci paraît aux presses de la Renaissance un ouvrage très documenté qui rétablit pas mal de vérités sur Marthe Robin. Son auteur sera dans ce studio pour la deuxième partie de l'émission.
Alors hier, vous avez été très nombreux à poser des questions sur l'école de Jules Ferry et aujourd'hui, je suis sûre que vous allez vous surpasser. Il suffit de vous rendre sur le site internet de la station, je vous le rappelle, www.europe1.fr.
Allez, Marthe Robin nous attend. Bienvenue dans la cinquième dimension.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a 30 ans, cette année, en février 1981, mourait dans la Drôme une vieille demoiselle de 79 ans, d'origine extrêmement modeste, mais qui, sans jamais sortir de sa petite chambre, avait fini par accéder à la célébrité. Son œuvre était immense, eu égard encore une fois à son immobilité forcée. 75 foyers de charité ont été créés au nom de Marthe Robin dans 44 pays. Nous y reviendrons tout à l'heure. Aux obsèques de Marthe Robin cet hiver-là vont se présenter plus de 8000 personnes, dont 200 prêtres, évêques et archevêques. La femme qu'ils enterrent est une sainte à leurs yeux et du reste, une enquête en béatification sera déposée à Rome 15 ans plus tard. Désormais, chaque année, plus de 40 000 personnes viendront en pèlerinage à la ferme de la Plaine, au-dessus de Châteauneuf-de-Galaure, où a vécu cette femme étrange. Ils sont de toutes origines, de tous âges, avec un seul point commun, une confiance éperdue dans les bienfaits que l'esprit de Marthe pourrait leur apporter. Alors, qui est-elle, cette Marthe Robin? C'est une fille de paysan. Elle est née dans cette campagne isolée de Châteauneuf-de-Galaure entre Valence et Lyon le 13 mars 1902. Elle est le sixième et dernier enfant d'un couple d'agriculteurs. Or, à 7 mois seulement, elle est atteinte de fièvre typhoïde, une maladie qui emporte du reste sa sœur et qui va la laisser pour sa part dans un état très, très inquiétant. Elle a de lourdes séquelles de cette première affection. La jeune Marthe, par ailleurs, est vive, on la voit enfant tout à fait joyeuse, un brin espiègle, mais elle est très souvent malade. Ses soucis de santé nuisent évidemment à sa scolarité et l'empêcheront de passer le certificat d'études. En 1918, en pleine épidémie de grippe espagnole, elle subit plusieurs crises qui pourraient faire songer à de l'épilepsie, puis elle tombe vraiment malade le 1er décembre 18. Elle restera à ce moment-là 4 jours dans le coma. Les médecins pensent à une tumeur cérébrale. Elle en sort paralysée des membres inférieurs, elle se met à perdre temporairement la vue. En fait, plus tard, en 1942, elle sera longuement examinée par 2 praticiens lyonnais, des gens de renom, les professeurs Dechaume et Ricard, et à partir de leur constat, on conclut beaucoup plus tard qu'elle aurait été atteinte d'encéphalite, peut-être sous la forme de la maladie dite de von Economo, c'est une inflammation des centres nerveux. Dans la foulée de cette première crise aiguë en 1922, elle a une vision de la Vierge Marie qui sera suivie d'autres apparitions, dont celle du Christ en 1928. À ce moment-là déjà, elle est totalement paralysée, elle ne quitte plus son lit, lit qui a été fait sur mesure pour s'adapter à sa maladie. Ce qu'il va se passer, c'est qu'avec le temps, Marthe Robin va s'identifier au Christ dont elle revit la passion chaque vendredi et dont elle recevra les stigmates jusqu'en 1939. Vous savez ce qu'on appelle stigmates? Ce sont les blessures de Jésus sur la croix, blessures aux mains, aux pieds, au flanc gauche. eh bien, certaines semaines, pas toutes, Marthe se met à saigner spontanément à l'endroit de ses blessures ainsi que sur le crâne. Son médecin traitant l'a raconté, cela commençait par des maux de tête intenses qui partaient du centre du cerveau qui irradiaient jusqu'à la calotte crânienne pendant 1 heure et demie environ, puis apparaissaient des turgescences sous-épidermiques comme des veines qui se gonflent et elle se mettait à saigner de la tête. Vous comprenez mieux l'attrait que va représenter cette mystique paralysée de Châteauneuf de Galaure pour des centaines, bientôt pour des milliers de fidèles qui viennent lui rendre visite comme on vient prier une sainte. On estime que durant sa vie, Marthe Robin aura ainsi reçu dans sa petite chambre de la ferme de la Plaine plus de 100 000 personnes. Mais au-delà de la foi qui anime ses fidèles, si Marthe Robin est connue dans le monde entier par un immense public croyant et non croyant, c'est pour le phénomène ahurissant de sa survie sans aliments. En effet, pendant près de 50 ans, de la fin de 1931 jusqu'à sa mort début 1981, Marthe a vécu sans manger ni boire. Elle n'a rien ingurgité pendant ces quelques 18 000 jours, si ce n'est une hostie par semaine et de temps en temps quelques gouttes d'eau pour lui décoller les lèvres, mais elle ne pouvait d'ailleurs pas avaler cette hostie. Avouez tout de même qu'en guise de mystère, celui-ci est assez inouï.
Sur Europe 1 de la méditation de Thaïs composée par Jules Massenet.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Précisément, au cœur de l'histoire incroyable de Marthe Robin qui, pendant près de 50 ans, a vécu sans manger ni boire, Franck.
Et oui, c'est une paralysie de la déglutition qui empêche Marthe Robin de manger et de boire. Elle cesse tout à fait de s'alimenter fin 1931, début 1932. Elle a donc 30 ans à l'époque. Et cette situation tout à fait hors du commun est d'abord confirmée par sa famille, qui non seulement n'aurait aucun intérêt particulier à mentir à ce sujet, évidemment, mais une famille qui s'inquiète beaucoup. Vous pouvez l'imaginer. Tout médecin vous dira que même si on ne bouge pas ou presque, ne serait-ce que pour parler, pour rire, pour faire n'importe quelle mimique, il faut au moins contracter les muscles du visage. Ça réclame de l'énergie, même le fait de penser en nécessite, et puis tout simplement de se maintenir à température constante. Bref, il faut donc que il faut de la matière première, il faut manger, il faut boire. Par la suite, et pendant encore 40 ans, lorsque Marthe va se trouver sous la responsabilité de l'Église catholique, ceux qui l'entourent confirment eux aussi qu'elle ne mange ni ne boit. Précisons que chez les mystiques, ce phénomène n'est pas inconnu. Je cite François de Muson, qui est l'auteur du récent ouvrage sur le mystère Marthe Robin. Il nous présente un certain nombre de grands mystiques, Elisabeth von Reuter, Sainte Lidwine, Nicolas von Flüe au XVe siècle, Dominica del Paradiso, Dominica Lazzari au XIXe siècle, Louise Ratto qui est morte en 1883, qui est restée sans s'alimenter pendant 11 ans, et Thérèse Neumann, morte en 1962, qui elle est restée 35 ans sans manger. Voilà qui pose d'incessantes questions sur les limites du corps humain. Évidemment, les incrédules ont été nombreux, du vivant même de Marthe Robin. On y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Des rumeurs ont couru au village, selon lesquelles elle aurait pu être nourrie en cachette. Avouez quand même que pour de tels enfantillages, 50 ans c'est long. Hein, 50 ans à se nourrir
c'est très
en cachette.
Long même.
Plus sérieusement, on s'est interrogé sur ces hosties que Marthe, pourtant paralysée, serait parvenue à avaler. Là-dessus, le grand écrivain Jean Guiton, qui était un ami de Marthe Robin, qui en tout cas l'a rencontré souvent, rectifie tout de suite. L'hostie n'était pas avalée, écrit-il. Elle disparaissait mystérieusement quand on l'approchait de ses lèvres. Disons que Marthe absorbait l'hostie mais ne l'avalait pas. Le 11 août 1946, Marthe proclame « J'ai envie de crier à ceux qui me demandent si je mange, que je mange plus qu'eux, car je suis nourri par l'Eucharistie du sang et de la chair de Jésus. » Matériellement, vous avouerez que le mystère n'en est pas moins énorme. Marthe ne mange jamais, ne boit jamais. Certains prétendent même qu'elle ne dormirait jamais.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'énigme Marthe Robin, Franck.
Marthe Robin, dont on a célébré le 30e anniversaire de la mort au début de cette année, ses fidèles célèbrent aussi le 75e anniversaire de sa rencontre avec celui qui devait donner une grande ampleur, une véritable dimension à sa mission, Georges Finet. L'abbé Finet n'est pas arrivé par hasard auprès de Marthe. À l'époque, en 1936, il est le sous-directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse. Or, la jeune mystique a confié à son curé, le père Faure, qu'elle avait de très grands projets de charité, des projets à l'échelle planétaire. Le curé s'est senti dépassé. Il a demandé à être relayé auprès de Marthe comme directeur de conscience, si vous voulez, et c'est très naturellement que l'on s'est tourné vers le père Finet, un homme de 38 ans, solide, entreprenant, issu de la bonne bourgeoisie catholique lyonnaise. La première rencontre entre Marthe Robin et ce père Finet a eu lieu le 10 février 1936. Le prétexte qui était trouvé, c'était de livrer à la jeune femme un tableau qu'elle avait commandé et qui représente Marie, médiatrice de toute grâce. Après un premier contact le matin qui a duré seulement quelques minutes, le père Finet a retrouvé Marthe Robin dans l'après-midi et là, leur entretien a duré 3 heures. Je cite François de Muison. Le père Finet confiera « C'est un souvenir inoubliable. Il en a laissé un récit. Marthe en a parlé à diverses reprises. C'est donc un événement que l'on connaît bien. » Marthe lui révèle d'emblée qu'elle l'a déjà vu à Lyon, sans savoir que c'était lui et sans connaître son nom. Il est clair que dans son état, la chose est impossible, sauf à envisager une perception à distance, puisqu'elle ne quitte jamais son lit, vous avez bien compris. Elle donne des détails. C'était 6 ans plus tôt, lors du glissement de terrain qui s'est produit, le 13 août 1930 à 1h du matin, sur les flancs de la colline de Fourvière. L'abbé Finet était estomaqué. À l'époque, il était vicaire au sanctuaire de Fourvière et s'était effectivement précipité sur place pour secourir les victimes. Marthe l'a vu au milieu des décombres, aux côtés d'un enfant de 4 ans à l'agonie, dit-elle. Comment connaît-elle ce détail? Elle affirme « J'étais près de vous à ce moment-là ». Alors la discussion se poursuit, il parle, Marthe surtout, de la Vierge Marie. « Moi qui faisais des conférences sur le sujet, j'ai été ébloui de la manière dont elle m'en parlait », dit-il. Ils abordent aussi divers sujets, l'avenir de l'Église, le rôle des laïcs, la force de l'esprit. « Le langage est neuf », dit le père Finet. Il est surpris, évidemment, comment se serait-il attendu à un tel discours dans cette petite chambre d'une ferme isolée de la Drôme, lui l'habitué des salons de la bourgeoisie lyonnaise, demande François. Soit de Muison. Puis vient le moment où elle s'adresse à lui sans tergiverser. « J'ai une demande à vous adresser de la part de Dieu. »« Laquelle, mademoiselle ? » ?»« C'est vous qui devez venir à Châteauneuf pour fonder le premier foyer de charité. » Le prêtre est stupéfait. « Pourquoi faire ? » demande-t-il. « Il veut des précisions, notamment pour prêcher des retraites. Dieu le veut. » La réaction du prêtre est légaliste. Il ne peut pas être nommé à Châteauneuf-de-Galors parce qu'il appartient à un autre diocèse. Marthe rétorque « Ne vous tourmentez pas, la Vierge y veillera. » Et sans plus attendre, elle fixe la date du 7 septembre pour la première retraite. « J'étais abasourdi, je lui ai dit que j'en parlerai à mes supérieurs », confiera plus tard le père Finet. Ai-je besoin de vous dire que la première retraite aura bel et bien lieu le 7 septembre, puis une seconde en présence de l'évêque de Valence au mois de décembre? François de Muison nous dit qu'il y a eu un avant et un après père Finet dans la vie de Marthe. Le père Finet a été mobilisé en 1939, démobilisé comme tout le monde en 40, et à la faveur des événements, eh bien, il vient s'installer à Châteauneuf-de-Galors. À ce moment-là, on peut dire que l'essentiel est joué. Toutes les manifestations paranormales, les apparitions depuis 1921, les stigmates à partir de 1930, etc., les effets de la maladie, la paralysie en 1929, l'absence totale de nourriture depuis 1932, la cécité dont je vous ai parlé en 1939. Enfin, le lancement du mouvement avec la création d'une première école privée pour les filles à Châteauneuf-de-Galors en 34, et puis donc les retraites, le premier foyer en 36, tout ça est déjà acquis. Ce que va faire maintenant le père Finet, c'est organiser le rayonnement de Marthe Robin. En pleine occupation en 40, il lance, dans un climat d'hostilité à peine voilé, inutile de vous le dire, il lance la construction d'un nouveau foyer de charité à Châteauneuf, un foyer propre à accueillir les personnes désireuses de venir effectuer une retraite. Il sera inauguré ce foyer à la Pentecôte 1948 par Mgr Pic, évêque de Valence. Or, dès 1943, d'autres foyers se sont ouverts en France, puis en Europe. Au tournant de la décennie 1960, on va en trouver aussi en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En novembre 1986, pour le cinquantenaire des foyers de charité, un décret du Conseil pontifical pour les laïcs reconnaîtra cette œuvre. Marthe Robin, sans aucun doute, aurait été heureuse de cette reconnaissance officielle de la part de l'Église, elle que tant de gens avaient suspectée de démonisme. Ainsi, l'œuvre de la paralysée de Châteauneuf de Galaure se trouve-t-elle être, sur un plan pratique, au moins matériel, celle aussi du père Georges Finet. Et il va falloir que nous revenions dans la deuxième partie de l'émission sur ce personnage qui joue un rôle quasiment aussi important que Marthe elle-même. Il mourra neuf ans après elle, le 14 avril 1990, à Châteauneuf de Galaure, évidemment.
Du trio final de Faust, opéra de Gounod sur Europe 1, Franck.
Alors François de Muison vient de faire paraître aux éditions des Presses de la Renaissance un ouvrage passionnant sur le mystère Marthe Robin. Il est avec nous dans ce studio et il va pouvoir répondre à mes questions et aux vôtres.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
L'émission est consacrée aujourd'hui au cas mystérieux de Marthe Robin. Et pour en parler, Franck, vous recevez François de Muison.
Et le débat a déjà commencé, si je puis dire, avec François de Muison. Mais rassurez-vous, nous allons y revenir.
À l'antenne, surtout.
À l'antenne, ce sera mieux de vous en faire profiter. Nous disions, François de Muison, que ce qui vous frappe le plus après avoir écrit ce livre, c'est que Marthe Robin est, me dites-vous, unique en tout.
Oui, bonjour, Franck Ferrand, bonjour. Oui, elle est unique en tout, elle est exceptionnelle en tout, et c'est presque ce qui dérange. Tant d'extraordinaire dans les multiples facettes de sa personnalité, dans sa façon de vivre, je dirais même dans son mode de vie, dans ce qu'elle entreprend alors qu'elle est clouée à son lit dans une chambre noire, sans quitter son lit. Pendant 50 ans, qu'elle fonde une œuvre au niveau mondial, on est interpellé. On est
44 pays, 75 fondations, hein, c'est ce que je disais tout
exactement.
À l'heure.
Exactement. On est dérangé. On est interpellé. On se dit c'est pas possible. On dit ça ne peut pas passer. Et c'est vrai qu'au terme d'une année d'enquête acharnée, je n'ai guère trouvé, je dirais presque, hélas, pour la rationalité, de raison de mettre en cause cette réalité événementielle. J'aime beaucoup ce terme, réalité événementielle.
Alors, dans un instant, on va venir évidemment au mystère de cette vie passée sans manger, sans boire, quasiment sans dormir. On va venir aussi à l'énigme de la mort de Marthe Robin, parce que les circonstances de sa mort sont quand même relativement troubles, et vous avez fait, vous, la lumière sur la question, en tout cas, autant qu'il était possible de la faire. Juste un mot encore sur la singularité de ce personnage, qui est très lumineux, très particulier. Vous dites vous-même, je vous cite François de Muison, « Si on n'y prend pas garde, l'image de Marthe risque de perdre cette fascinante originalité propre au prophète pour laisser place à l'icône conventionnelle d'une mystique qui serait une sorte de fusion de Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila et d'autres encore. » C'est vrai que plus le temps passera, plus les décennies s'accumuleront sur cette vie somme toute très discrète, quasiment obscure au fond de cette petite chambre de 15 mètres carrés, et plus la singularité de Marthe Robin risque de s'atténuer, de s'effacer.
Je vous remercie de souligner ce point. Il ne faut pas faire de Marthe Robin ce qu'on fait, il faut dire certaines personnes, une image pieuse. C'est tout sauf une image pieuse. C'est une prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un discours novateur, un discours précurseur. Je pense qu'elle apporte une réflexion pour le XXIe siècle à travers sa vie, à travers ses écrits, à travers la façon dont elle a aidé beaucoup de personnes.
Alors, il y a deux choses qu'il faut clarifier tout de suite avant de venir à nos énigmes et nos mystères. C'est d'abord, quand on dit toujours et à longueur de texte, j'ai bien sûr lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, mais un certain nombre d'autres articles ou livres aussi, on nous dit toujours qu'elle aide énormément de gens. 100 000 personnes sont venues la voir à l'issue des retraites, etc. Mais comment les aidait-elle? Personne ne nous dit jamais précisément de quoi il s'agit.
Alors là, il y a une immense énigme. Marthe Robin reste dans la simplicité. Il y a deux choses. Elle reste dans la simplicité.
Elle parle avec les gens, c'est
elle
ça.
Elle parle avec les gens, avec une voix douce, légère, qui ne correspond pas ni à son âge, ni à sa maladie. C'est intéressant à dire. Mais ça, c'est peut-être aussi un petit peu fantasmatique. Quand on rentre dans cette chambre sombre, on entend sa belle voix douce. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est vrai qu'elle raconte quelquefois aux personnes qui la visitent, j'ai eu beaucoup d'exemples, des éléments qu'elle n'est censée pas connaître. Comme si elle voyait.
Comme
un
si
petit
elle avait
peu
une sorte de don de voyance. Hein, oui, c'est ça.
Il y a eu des gens célèbres, comme l'historien Boufflé, qui a fait part de son expérience tout à fait étonnante, Jean Guiton. Donc il y a cet aspect. Mais à côté, il y a une simplicité dans le discours, presque désarmante. Elle est d'une très grande banalité apparente. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est tout ce qu'elle m'a dit ?» Ah, ça m'a d'abord énormément déçu. Et puis, peu à peu, j'ai réfléchi. Ces simples phrases qu'elle m'a dit ont nourri ma vie. Ça m'a beaucoup frappé. Bon, il peut y avoir de l'autosuggestion, si 10, 20, 30, 40
oui, ça,
personnes.
Évidemment, évidemment.
Mais quand il y a beaucoup de personnes, on sent qu'il y a une source en elle, un message, un souffle qui passe. Voilà.
Alors, nous viendrons tout à l'heure aux fondations de Marthe Robin. Ça, c'est un autre aspect qui reste un peu nébuleux pour beaucoup d'auditeurs. Venons, puisque vous émettez vous-même les doutes nécessaires, venons à ceux qui refusent carrément le phénomène. La tête de liste, si je puis dire, c'est le docteur Gonzague Motet, le psychiatre, qui lui dit que Marthe Robin était tout sauf malade et handicapée. Elle est très intéressante, dit-il, à de nombreux points de vue, mais elle n'est pas malade organiquement. Ses manifestations ne sont que le reflet d'une stratégie de lutte contre une angoisse névrotique, nous dit-il.
Oui, alors là, je dirais que c'est le grand débat qu'on ouvre pour tous les grands mystiques, pour toutes les grands phénomènes d'apparition,
bien sûr, oui.
Les phénomènes paranormaux, malades, pas malades. Là, il n'y a pas une originalité fondamentale dans le débat autour
habituel,
de Marthe
oui.
à ce point de vue. Ce qui a interpellé, ce que vous signalez tout à l'heure, c'est le fait qu'elle ne mangeait pas et qu'elle buvait pas. Parce que là, il faut bien le dire, ça ne passe pas.
Les gens ne le croient pas. Alors il y a beaucoup de gens qui disent mais elle se nourrissait en cachette. En fait.
Ça ne passe pas.
Oui.
Comment peut-on vivre ça
pendant 50 ans.
Pendant 50 ans. J'ai enquêté comme un acharné pour essayer, et toujours des témoins de première main. Autrement, il faut. Heureusement, il en reste. Elle est morte il y a que 30 ans, donc il en reste. J'ai enquêté comme un acharné et je peux vous dire que je n'ai eu aucun élément. Et vous avez souligné qu'il y a eu autour d'elle beaucoup de personnes différentes et la théorie du complot ne peut pas s'appliquer sur 40 ans et avec tellement de personnes différentes. Et j'ajouterai, s'il vous plaît, une chose. Elle avait, pendant 10 ans, entre 1940 et 1951, la seule personne de sa famille qui est restée à la ferme avec elle, c'est son frère Henri, agriculteur, qui s'est suicidé plus tard, qui souffrait de graves maladies, et qui était très opposé au père Finet dont vous avez parlé. Il y avait un petit peu, même une sorte de violence, larvée, cachée. Et ce frère, s'il y avait eu la moindre chose pour faire fuir un petit peu, je veux dire, ses prêtres et tous ses visiteurs, il l'aurait dit.
Ah oui.
Et ce frère qui était tout le temps à la ferme, il aurait dit, bah écoutez, entre nous, elle mange de temps en temps. Donc ça, c'est un des éléments très très forts, mais il y en a d'autres. Et j'avoue que pourtant, c'est vrai, ça ne passe pas. Parce que comment un être humain? Et ça, c'est une des énigmes de Marthe, un des grands problèmes qui se posent et auquel la science, hélas, ne peut pas répondre parce que les médecins n'ont pas eu l'occasion de pouvoir...
Il y a deux professeurs qui l'ont ausculté très longuement,
alors,
tout de même. Hein,
oui, mais...
En 1942.
Ajoutons que c'est une visite sur place... à Châteauneuf, dans sa chambre, pendant 5 heures. C'est une écoute. Ils l'ont regardé.
Mais c'est un examen, mais ce n'est pas une auscultation clinique, en fait.
Elle n'a pas été hospitalisée.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Signoret, sœur Marie Kérou sur Europe 1, Franck.
Qu'on n'entend pas assez souvent. À chaque fois, c'est un moment de grâce quand on entend cette voix cristalline. Nous sommes en compagnie de François de Muison pour parler de son ouvrage Marthe Robin, le mystère décrypté aux presses de la Renaissance. Vous êtes allé très loin dans l'enquête, François de Muison. Vous avez vraiment abordé tous les aspects. Il y a une énigme majeure qui jusqu'ici était quasiment un tabou, disons-le. Ce sont les circonstances de la mort de Marthe Robin sur lesquelles vous vous êtes vraiment penché de très près. On ne savait pas exactement, on sait qu'elle est morte donc en février 1981, mais elle a été retrouvée d'abord pas dans son lit, par terre.
Elle a été retrouvée, alors ce qu'on savait, ce qu'on a su dès le début, c'est qu'elle a été retrouvée par terre, au pied de son lit, et les deux portes de sa chambre étant fermées à clé. Et on a caché, c'est-à-dire les personnes informées, au premier rang desquelles, il faut bien le dire, le père Finet, qui était la personne qui a découvert Marthe au pied de son lit. On a caché un certain nombre d'éléments et il faut dire que certains points, certains faits, ont été cachés jusqu'à aujourd'hui et j'ai bien été obligé, je dirais, contraint et forcé dans ma quête de vérité de les mettre à jour. À savoir, il y a deux éléments très singuliers, il faut dire les choses comme elles sont. On a trouvé à ses pieds des chaussons légèrement usagées, excusez-moi le terme n'est pas très adroit peut-être, mais il dit bien ce que ça veut dire.
Oui, c'est ça. Oui.
Et voilà, on a trouvé des chaussons usagés et on a trouvé dans la chambre une cuvette en plastique contenant ce qu'on appelle du méléna, c'est-à-dire un résidu gastrique sanguin et, excusez-moi du détail, du papier journal ayant fait usage de papier hygiénique. Je ne rentre pas dans ces détails par délectation morbide ou pour faire du sensationnalisme. Je pense que mon livre évite mais ce point, ce sensationnalisme. Mais je pense qu'il faut dire ici très sérieusement la vérité. Ces deux éléments n'ont jamais été donnés. Ils figurent néanmoins dans le dossier qui a été préparé, je le suppose, parce que j'ai pas eu accès à ce dossier qui est secret, dans le dossier de béatification, mais ces deux éléments remettent en cause d'une façon assez importante les hypothèses précédentes.
Mais
qui
oui.
sont, un, c'est le diable qui l'a tué. Bon, J'ai interrogé des gendarmes, des magistrats.
Je suis pas sûr que les gendarmes soient très réceptifs à ce genre de théorie.
Très pragmatique.
Bon, donc, voilà, ça ressemble à une affaire parfaitement humaine. Tout le monde a eu cette réaction-là. Ceci dit, les mystiques peuvent penser que, bien que on n'a pas beaucoup d'exemples, j'en ai pas trouvé moi-même, où il est avéré que le diable ait tué un être humain sur cette bonne terre. Donc il y a eu la part du diable, on va dire, la part
oui,
du diable, parce que le diable sent...
Mais alors les autres théories...
L'autre théorie, c'est que Marthe aurait été capable de se déplacer, donc elle serait descendue de son lit, elle aurait mis des chaussons, elle aurait fait un besoin pressant, elle aurait utilisé le papier journal. Excusez-moi, là encore,
oui, mais enfin, bon,
dans ces détails.
Disons que ça va tout à fait à l'encontre de toute l'image et de tout ce que nous venons de dire sur les 50 années précédentes.
Exactement. Et elle n'aurait pas pu remonter sur son lit. C'est très, très dérangeant. C'est très dérangeant, je vous dirais, pour la mémoire de Marthe. Pour le respect qu'on doit à sa mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, j'avance une hypothèse parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas eu d'aveu d'une personne dans ce domaine-là, je dis qu'une personne est vraisemblablement entrée dans la chambre cette nuit-là, dans la nuit où elle est morte, du 5 au 6 février. Ceci dit, je ne dis pas que, évidemment, je ne pense même pas qu'elle a été victime d'un meurtre ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais il y a eu une intervention extérieure, j'ajoute, je propose cette hypothèse, disons cette piste de réflexion. Et ce qui est très dérangeant, c'est que toutes les personnes qui auraient pu demander une autopsie, ce qui semblait quand même relativement naturel en 1981, on dit.
Oui, c'est très récent.
C'est très récent. Qui auraient pu demander une enquête, qui auraient pu saisir la gendarmerie, saisir la justice, ne l'ont pas faite. Des gens de la famille m'ont dit... C'est dit dans le livre, nous n'avons pas réagi comme il le fallait. Pourquoi ? Ben parce que on était quand même dans une atmosphère autour de Marthe assez singulière.
Est-ce que cette atmosphère, elle a été créée, disons-le, par le père Finet lui-même, dont on a parlé beaucoup sans jamais...
Alors oui, on ne peut pas dire qu'il en soit l'unique source.
Responsable, oui.
L'unique responsable, mais le père Finet a joué un rôle considérable autour de Marthe. Il a été le filtre de toute la communication pendant 50 ans, 60 ans.
Les foyers de charité, c'est autant lui que Marthe elle-même, finalement.
Absolument.
Oui.
Absolument, et on voit même qu'il a pris une position dominante, parce que là, il y a toute une part où le livre apporte des éléments qui n'ont jamais été donnés. C'est les 10 dernières années de la vie de Marthe et comment il y a, il faut bien le dire, une opposition entre elle et le père Finet. Et le père Finet, à un moment donné, le mot peut sembler un peu fort, mais il faut le dire, l'a un peu trahi. Il a un peu trahi ce que Marthe voulait faire des foyers de charité.
Alors là, justement, dites-nous, quelle était au départ son idée? Que voulait-elle faire en 1936, hein, lorsqu'elle rencontre le père Finet? Elle lui dit, vous allez être mon instrument, moi qui ne peux pas bouger, en quelque sorte. C'est vous qui allez créer ces foyers. Mais à quoi servent-ils ces foyers? Que sont-ils, en fait?
Alors, c'est une vision prophétique et une vision d'avenir. Elle est utopique en même temps. Elle cherche à regrouper dans des unités qui n'ont pas de structure juridique prédéfinie. Ce n'est pas une structure religieuse. Elle veut regrouper des hommes, des femmes, des laïcs, des religieux pour les faire vivre ensemble dans une famille. C'est la notion de famille.
Et aujourd'hui, c'est devenu ces foyers tellement importants et tellement nombreux, en fait, à travers le monde. François de Muison, Marthe Robin, le mystère décrypté aux presses de la Renaissance. Vous aurez compris que ce n'est pas un ouvrage béni oui-oui. Il y a beaucoup à découvrir là-dedans.